There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous discutons PMA, FIV, insémination, interruption médicale de grossesse, fausse couche, attente, médecine douce et alternative. Et on en parle pour les couples hétéro, homo, maman solo. Moi, c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Et ce podcast est le podcast que j'aurais aimé écouter pendant mes essais bébés. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer leur famille.
Lorsque Mathieu lui demande de faire un bébé, Maëva n'a que 24 ans et ne se sent pas prête du tout. Quelques années plus tard, en rentrant d'un road trip en Amérique du Nord, elle le sait, c'est le moment. En 2016, elle arrête donc la contraception et rien ne se passe. Puis elle essaie les tests d'ovulation qui ne sont juste jamais clairement positifs pour vraiment l'aider. On lui annonce un an d'attente pour aller voir sa gynéco habituelle pour avoir quelques conseils, alors direction les urgences gynéco qui l'orientent vers la PMA. De là, tout s'enchaîne. 3 FIV en un an, 3 échecs. Puis elle et Mathieu décident de tout plaquer. Changement de gynéco, de centre PMA, déménagement, ils sont enfin heureux. Ils commencent même les démarches d'adoption. Puis une 4e FIV avec un protocole expérimental visant à aider ses ovocytes à maturer complètement. Et quelques semaines plus tard, une intuition qui ne s'explique juste pas. Je vous laisse découvrir le parcours aussi fou que touchant de Maëva pour fonder sa famille. Bonne écoute.
Bonjour Maëva et bienvenue sur le podcast.
Bonjour, merci beaucoup.
Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. D'où est-ce que tu nous parles ce matin ?
Donc de Clermont-Ferrand, en Auvergne.
Et comment ça va ce matin ? Tu as l'air de bonne humeur.
Oui, ça va parce que mon petit Ulysse est chez la nounou et je l'ai quitté, il dormait, donc j'étais contente.
Un petit break bien mérité. C'est ça. Bon, très bien. Mais justement, avant de rentrer dans les détails de ton parcours, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire quel âge tu as ? Donc on sait que tu vis en Auvergne, ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble un peu ton quotidien ?
Ok, et ben alors, donc du coup, je m'appelle Maëva, j'ai 28 ans, enfin cette année j'ai 28 ans, je suis architecte, donc j'ai deux activités puisque je suis à mon compte et aussi j'enseigne l'architecture d'intérieur. Et mon quotidien, il est rythmé par mon petit garçon Ulysse qui a 4 mois et demi et mon mari Mathieu, voilà. Donc, on a notre petite vie en Auvergne.
Bon, très bien, super. Et alors, justement, donc avec Mathieu, quand est-ce que vous avez décidé d'avoir un petit bébé ?
Eh ben, c'était en 2016, donc après 4 ans de relation. Ça faisait un an que moi, j'étais diplômée, qu'on avait notre petit, on va dire, train-train quotidien. Tout était bien en place, on était tous les deux en CDI et on voyageait beaucoup, beaucoup. Et un jour, pendant un voyage, il y a Mathieu qui m'a dit « j'aimerais beaucoup avoir un enfant ». Alors moi, sur le coup, j'étais pas prête parce que j'avais 24 ans. Le fait qu'il me dise ça, je sais pas, ça a déclenché quelque chose. On a continué à vivre sans se dire qu'on lançait les essais bébés, comme on dit. On a continué à voyager. Et moi, du coup, on a fait un grand voyage aux États-Unis et au Canada. Et on s'est dit, voilà, après ce voyage, on se lance dans l'aventure pour essayer d'avoir un enfant. Donc ça, c'était en l'été 2016.
Bon, voilà. Très bien. Et donc, tu prenais la contraception à cette époque-là ou...
Ouais, on avait dit, en revenant de ce voyage, j'arrêterai la pilule. Et moi, je suis très organisée dans la vie et très prévoyante. J'aime bien tout maîtriser. Donc, moi, je m'étais dit, j'arrête la pilule, allez, en août. Puis septembre, octobre, je suis enceinte. À Noël, on l'annonce. Tout va être parfait, quoi.
Magique, quoi. Voilà. J'avais tout prévu.
J'avais tout prévu, sauf la suite, quoi. Donc, très impatiente aussi que je suis. Au fil des mois, ça, bah, rien, quoi. Rien. Alors, au bout de 6 mois, ça me posait question, quand même. Donc, on a commencé à faire les tests d'ovulation.
D'accord. T'en avais parlé à ton gynéco ou à ton médecin traitant?
Non, rien du tout encore. Rien du tout. Juste, entre nous, voilà, on a commencé les tests d'ovulation. C'était pas la folie. J'y arrivais pas à les faire marcher, en fait.
Ouais, c'était pas positif ou qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, c'était positif, mais en fait, pour les tests d'ovulation, il faut que les deux barres soient vraiment de la même couleur pour indiquer l'ovulation proche. Mmh. Moi, c'était jamais tout à fait de la même couleur. C'était un peu trop clair. Enfin, c'était pas franche, quoi.
Donc, j'avais beau tester quasiment tous les jours de ton cycle, ça passait jamais, quoi.
C'est ça. Après, j'avais des cycles toujours assez réguliers. Donc, on se doutait quand est-ce que j'ovulais, hein, en fonction au bout de 14 jours. Donc, on savait à peu près quand est-ce que j'ovulais. J'avais les symptômes que j'avais regardés sur Internet, etc. Par contre, l'ovulation n'était jamais vraiment positive. Ça, c'était la première étape.
Vous êtes inquiété ou pas particulièrement, pas encore?
Pas particulièrement encore, non. Mm-hmm. Mais bon, ça me posait question et c'est à partir de là que j'ai ouvert mon compte Instagram où j'ai ressenti le besoin, en fait, de m'entourer de femmes qui étaient aussi en essai bébé comme ça. Donc, c'est là que j'ai ouvert mon compte Instagram et ça m'a beaucoup aidée pour, on va dire, supporter l'attente dans un premier temps. Et ensuite, c'était au bout de combien 9-10 mois d'essai, mes cycles ont commencé à devenir irréguliers alors qu'ils étaient réguliers. J'ai commencé à avoir des pertes colorées en dehors des règles, combinées au fait que j'avais jamais de test d'ovulation positif. Bon, là, j'ai commencé un peu à m'inquiéter.
Ouais. Et donc, j'avais rien changé et d'un coup, un peu.
Non, rien changé du tout. Mmh. Vraiment rien, quoi. Donc, j'ai pas compris. Et donc, là, j'ai décidé de consulter ma gynéco de d'habitude, en fait.
Ouais.
Il faut savoir que ma gynéco de d'habitude, elle consulte dans un hôpital et il y a un an de délai pour avoir un rendez-vous avec elle. Donc, c'était hors de question. Donc,
c'est bien, mais il faut pas que ce soit urgent, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors après, si c'est urgent, faut consulter les urgences gynécologiques. Voilà. C'est comme ça qu'on peut avoir des rendez-vous rapidement. Donc moi, j'ai décidé d'aller aux urgences gynécologiques. Alors c'était absolument pas une urgence, mais je voyais pas de tissu, quoi. Je voulais pas attendre un an. Ça aurait repoussé au bout de 2 ans d'essai, quoi. Donc j'y suis allée. Ils m'ont fait une échographie. Ils m'ont dit que tout était parfait. Et là, ils m'ont dit... Donc j'ai expliqué qu'on était en essai bébé, que j'étais un petit peu inquiète parce que ça faisait 10 mois qu'on essayait et qu'il y avait rien. Et ils m'ont dit, de toute façon, ici, vous pouvez consulter pour ça qu'au bout de 2 ans d'essai infructueux.
2 ans?
2 ans. Ça m'a paru une éternité.
Et puis c'est même assez rare, on entend un an, mais 2 ans, j'ai jamais entendu. Un an,
alors là-bas, c'était 2 ans, c'est leur discours. Donc ils m'ont dit, ce que je vous encourage à faire, c'est prendre un rendez-vous dès maintenant, pour dans un an, quoi. Ouais, j'ai dit oui, on va faire ça, et bon, j'ai laissé passer. Ouais. Et moi, dans ma tête, c'était non, no way, je n'attendrai pas. Et j'ai pris les devants. Et j'ai pris rendez-vous à 1h30 de chez moi, chez une gynécologue spécialisée en infertilité.
Ok.
Et sans savoir qu'en fait, c'était le centre PMA. Enfin, pour moi, c'était pas forcément lié à l'époque.
C'est
pas une gynéco spécialisée à infertilité qu'on était dans un centre PMA. Mmh. Donc, j'ai pris rendez-vous et on a eu rendez-vous 3 semaines plus tard. Donc, super rapide.
Ah, super, ouais.
Et là-bas, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ils m'ont dit, vous avez bien fait de venir parce que, du coup, il y a 11 mois d'essai. La gynéco m'a dit, ici, je conseille de consulter à partir de 10 mois environ. Donc, ça m'a rassurée. Je me suis dit, je suis pas folle, quoi, de consulter rapidement.
Rapidement, entre guillemets. Oui, entre
guillemets. Et donc là, elle nous a donné tous les examens à faire. Donc, on a fait super rapidement. Moi, tout était parfait. Donc, prise de sang hormonale, parfait. Échographie où on comptait les follicules pendant l'ovulation, parfait. J'ai eu le droit du coup à l'hystérosalpingographie, où on nous injecte un produit dans le vagin pour voir si les trompes sont perméables, avec une radio du coup. Et moi, il s'est avéré que à la fin de l'examen, on m'a dit tout est parfait. Par contre, l'examen ne s'est pas bien déroulé dans le sens où il y a la trompe gauche, ça passait pas facilement du tout. Ils ont dû me retourner dans tous les sens, me remuer, ça a duré un quart d'heure, l'espoir, pour que le produit passe enfin.
Ah, donc ça veut bien dire qu'il y avait un petit souci quand même, que ça passait pas, quoi.
Bah, moi, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Mais eux, non, dans leur rapport, tout était parfait. Moi, j'ai toujours eu ce doute après coup de ouais, c'était parfait, pas tant que ça. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, j'ai eu une sciatique récurrente parce qu'ils m'ont complètement détraqué au niveau du bas du dos. Enfin, bref. Et pour Mathieu, du coup, les fameux spermogrammes. Et là, quand on a reçu les résultats, ça a été la douche froide, puisqu'en fait, ça, c'était pas bon du tout. Donc, très mauvaise mobilité et forme atypique. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas normaux, quoi, et qu'ils peuvent pas atteindre les ovules.
Ah,
donc,
merde.
Là, on a tout de suite compris, direct, que ça serait la PMA.
D'accord.
Et ça nous a pas fait peur, ça nous a, au contraire, ça nous a donné beaucoup d'espoir.
Ah, super.
Ouais.
Je vous dis,
bah en fait
une explication.
Ça m'aurait plutôt frustré de qu'il y ait rien quoi dans les examens et qu'on nous dise continuer. Enfin bon, là il y avait quelque chose et comme il y avait quelque chose on saurait comment le prendre en charge et ça irait quoi.
Et en parallèle du coup personne n'expliquait toujours. Enfin tu leur as parlé de tes tests d'ovulation qui étaient jamais complètement positifs.
Oui, je leur en ai parlé et ils m'ont dit bah non mais vraiment vos taux d'hormones au moment de l'ovulation, ils sont bien donc il y a pas de raison après mais au niveau des prises de sang, mon estradiol donc c'est le taux d'ostrogène, il était dans la norme mais toujours au minimum on va dire. Donc sachant que l'ostrogène c'est ce qui permet aux ovules de devenir matures et de provoquer une bonne ovulation. Et ça, voilà, c'était toujours au minimum ras les pâquerettes. Mais ça inquiétait pas plus que ça la gynécologue. Non, là en fait, l'infertilité à ce moment-là, c'était uniquement le mauvais spermogramme.
Vous y allez de manière assez positive et déterminée. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose du coup comme traitement et comment ça se passe?
Donc là, on nous propose directement de passer en fécondation in vitro parce que dans le cas où c'est une infertilité masculine, on va dire, on nous dit que ça sert à rien de faire des stimulations ovariennes parce qu'on aura beau stimuler mon ovulation, si les spermatozoïdes n'arrivent pas au but, ça ne sert à rien. Et pareil pour l'insémination artificielle. Donc on passe directement en FIV. On savait déjà comment ça allait se passer à peu près parce qu'en fait, du coup, mon mari est né d'une fécondation in vitro.
Ah, d'accord. Donc la parole était déjà pas mal libérée sur le sujet dans la famille.
Oui, complètement. D'ailleurs, à partir du moment où on a su qu'on allait rentrer en PMA, on en a directement parlé à nos familles. On avait besoin d'être entourés, d'être soutenus. Et comme, du coup, oui, comme tu dis, la parole était déjà libérée à ce sujet, c'était pas du tout un tabou, tout le monde le savait. Enfin, voilà. Donc, on en a parlé, ça nous a fait du bien au départ.
Ah.
Ouais. Parce que, au départ, du coup, tout le monde était, positif. Oui. Voilà. Donc on commence les fécondations in vitro. On commence 3 mois en fait après avoir eu notre premier rendez-vous. Donc c'est assez rapide. Donc première fécondation in vitro, traitement. Ensuite on fait la ponction d'ovocytes. Et là le jour de la ponction, bah c'est un peu stressant parce que c'est en anesthésie générale. Donc ça fait toujours un petit peu stresser. Après la ponction, il y a mon mari qui croise la gynécologue dans les couloirs, qui lui dit oh c'est super super résultat, on a eu 22 ovocytes, donc c'est génial. Donc mon mari revient dans la chambre pour m'annoncer cette bonne nouvelle. Donc j'étais super contente et après il me dit par contre l'inconvénient d'en avoir autant, c'est qu'il y aura pas de transfert frais. Tout va être congelé parce que sinon tu risques une hyperstimulation en fait, comme il y avait beaucoup d'ovocytes.
D'accord, ok.
Donc là j'étais un petit peu déçue parce que moi toujours très prévoyante, je m'étais dit c'est bon, on fait une FIV en novembre, donc je serai enceinte là. Enfin bref, je m'étais déjà projetée avec un transfert. un petit peu n'importe quoi, mais bon. Donc j'étais un petit peu déçue, mais bon. Et une heure plus tard, il y a cette fois le biologiste qui vient dans la chambre pour m'annoncer officiellement le résultat, parce que là, c'était, on va dire, entre deux portes, c'était vraiment pas officiel. Et là, le biologiste nous dit, oui, en effet, on a 22 ovocytes. Par contre, il y en a que 9 qui vont pouvoir être utilisés, il y en a que 9 qui sont vraiment matures. Là, j'ai été très déçue parce que, en fait, je savais que s'il y avait un, parce que avec mon compte Instagram, j'étais vachement renseignée sur tout ça, en fait, et je savais que s'il y avait un taux élevé d'ovocytes immatures, ça pouvait vouloir dire qu'il n'y avait pas une super qualité d'ovocytes, en tout cas sur ce prélèvement-là, quoi.
D'accord, ok.
Donc, assez déçue. Et puis, ça s'est confirmé, puisque 2 jours plus tard, on nous dit qu'il y a 2 embryons, mais qui sont vraiment pas terribles. En gros, qu'ils n'ont pas trop d'espoir. Et le lendemain, au 3e jour, ils nous ont dit... C'est mort, enfin, tous les embryons ont arrêté de se développer.
Oh, merde.
Donc, première FIV, 22 ovocytes, 9 matures et 0 embryon.
Oh, merde, ok. Ils étaient du coup.
Au départ, ils me disent que c'est juste peut-être ce cycle-là qui l'a pas fait, quoi, que cette ovulation n'était pas terrible. Voilà, c'est la première explication que ça arrive, que parfois il n'y a pas une super qualité d'ovocytes.
D'accord, bon.
Donc, on est super triste.
Bah ouais,
parce qu'à partir de ce moment-là, on comprend qu'en fait, la PMA, c'est pas juste une solution, en fait. C'est un combat. C'est vraiment là qu'on en prend conscience. Ouais. Parce que avant la FIV, on était vraiment confiants, déterminés et on pensait que c'était très scientifique, très, très carré, que voilà, quoi. Mais en fait, non.
Ouais.
Première FIV qui échoue. L'avantage de ce centre, c'est que tout va très vite et on nous propose d'enchaîner sur une deuxième FIV 3 mois plus tard.
D'accord. Bon, c'est un délai qui vous convient. Du coup, vous êtes prêt à vous relancer
de toute façon, on peut pas faire plus court parce qu'il faut toujours 3 mois entre 2 ponctions. On peut pas pour que le temps que le corps se remette. Donc non, on était contents.
Okay.
Donc, deuxième FIV, 3 mois plus tard, on est en février 2018. Donc, pareil, traitement, ponction, on ne change rien en protocole à part la molécule des hormones. Et là, la ponction donne, si je me souviens bien, 9 ovocytes, 3 matures. 3 ovocytes matures.
Ah, okay.
Donc là, on commence à comprendre qu'il y a un réel problème au niveau de mes ovocytes parce qu'à chaque fois, on a un gros pourcentage d'ovocytes immatures. Pareil, hein, on ressort de là le jour de la ponction hyper déçu, mais un peu plus confiant, je sais pas pourquoi. Mm-hmm. Et au 3e jour, on nous appelle pour nous dire « on vous attend pour un transfert, on a un embryon qui s'est développé ». Donc là, on est à J3. Et ils me disent au téléphone, bon, c'est pas le plus bel embryon qu'on ait vu, hein, mais il fera l'affaire.
Mais il vaut mieux rien dire quand même, des fois c'est horrible de dire des trucs
pareils. Voilà. C'est ça.
Ah, du coup, t'arrives pas forcément super, bon, t'y crois pas trop, quoi, non?
Si, quand même, parce que je sais pas pourquoi, mais on s'était dit, on s'en fiche qu'il soit pas parfait. On n'est pas parfait, alors si tu l'es pas avec
nous,
on a un peu tourné ça à l'humour, on va dire, et on était confiants parce que comme c'était notre premier transfert, on se dit, on avance. Dans tous les cas, on a avancé par rapport à la dernière fois. Donc on fait le transfert et bon, bah négatif. Hein. Donc de toute façon, là, on avait fait notre première FIV, enfin officielle, parce que la première n'a pas compté pour la sécurité sociale, on va dire. Donc là, on n'a pas d'autres embryons en stock, donc hop, là, c'est encore fini pour cette FIV-là.
Et du coup, vous demandez, vous ressollicitez un peu vos médecins en
posant
un peu plus de questions, du coup,
comment ça se passe? Au départ, là, la gynéco me dit, bon, bah, faut continuer, faut refaire une FIV. Et moi, j'ai dit, non, là, franchement, je sens qu'il y a un truc qui cloche. Vous me dites depuis le début que l'infertilité, elle est uniquement masculine et que chez moi, tout est parfait. Je suis jeune, tout va aller très vite, parce qu'on me disait ça au début. Mmh. On me disait, vous êtes jeune, franchement, ça va marcher du premier coup, ça va être trop bien, quoi. Et je leur dis, non, là, je pense que de mon côté, il y a quelque chose aussi. Et j'aimerais qu'on explore aussi de mon côté. Donc, j'ai dû un petit peu pousser, hein, on va dire. Et j'ai expliqué aussi que j'avais des règles qui étaient super douloureuses, assez hémorragiques, qu'elle me dit directement, bah, on va faire une célioscopie. Donc une célioscopie, c'est comme pour quand on se fait opérer de l'appendicite, quoi. Donc avec 3 trous dans le ventre pour un petit peu explorer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va faire une célioscopie pour, dans un premier temps, voir si vous n'avez pas d'endométriose. Et dans un deuxième temps, pour aussi essayer de faire des trous dans les ovaires. Donc c'est ce qu'on appelle un drilling ovarien.
D'accord. Donc,
Donc ça c'est conseillé pour les femmes qui produisent beaucoup d'ovocytes, mais pas forcément de bonne qualité en fait.
Ah ouais. Alors qu'est-ce que ça fait le drilling exactement?
Et ben normalement ça libère un peu. J'ai pas trop bien compris, mais en gros ça libère. Les ovaires, et ce qui fait qu'ils produiraient moins d'ovocytes, mais de meilleure qualité.
Bon.
Donc, en fait, on passe de quelqu'un qui n'avait pas de problème, et là, on me dit qu'en fait, j'ai sûrement le syndrome des ovaires polykystiques, donc qui, des ovaires qui produisent trop d'ovocytes. Mais jusque-là, j'avais rien. Et là, d'un coup, on me dit, ah bah oui, vous avez peut-être ça. Je dis, bon bah d'accord, on va faire cette célioscopie. Donc, on la programme 2 mois plus tard. Moi, en attendant, j'ai consulté un autre centre PMA parce que j'étais de moins en moins en confiance quand même. Parce que qu'on me dise du jour au lendemain comme ça, bah oui, vous avez des ovaires micropolykystiques alors que j'avais rien, qu'on veuille continuer à me faire des fifs sans explorer plus. Enfin, bref.
La confiance était un petit peu rompue, quoi.
Ouais, un petit peu. Ça commençait, on va dire.
Ouais, d'accord.
Et donc, j'ai consulté ailleurs, à 2 heures de chez moi. Et, on me dit, bah non, tout ce qui a été fait, c'est ce qu'on vous aurait proposé aussi. Par contre, ce que je peux vous proposer avant la cilioscopie, c'est de faire un IRM pelvien pour vérifier que vous n'avez pas d'endométriose avant de faire la cilioscopie. Et cet IRM va permettre, si jamais vous avez de l'endométriose, de la cartographier en quelque sorte, pour que ça soit plus facile pour la célioscopie s'il y a quelque chose à nettoyer, on va dire. Moi, je me dis, bah parfait. Et du coup, ils m'ont prescrit cet IRM. C'est tout ce que ça m'a apporté de consulter dans ce premier autre centre. Voilà.
Ouais, d'accord.
Donc moi, avant la célioscopie, j'ai fait l'IRM qui s'est avéré complètement négatif. Je n'avais pas d'endométriose.
D'accord.
Bon. Donc bon, j'étais déjà rassurée parce que... voilà. Bon, ça expliquait pas mes douleurs de règles. Je me suis dit, je devais être un petit peu chouchoute.
L'IRM peut donner une piste, mais ne diagnostique pas à 100%, en fait, non?
Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, on voit rien à l'IRM. Après, c'est possible qu'il y ait des mini-adhérences que nous, on voit pas. Mais en tout cas, vous avez pas d'endométriose développée. Enfin, nous, on voit rien.
Okay.
Mais la célioscopie peut apporter quelque chose en plus. Donc, on fait quand même cette célioscopie. Les résultats de la célioscopie, c'est que, en effet, c'était un petit peu bouché au niveau de ma trompe gauche. Donc, chose qu'on avait, que j'avais plutôt plus ou moins détectée pendant la lystérosalpingographie. Donc, oui, il y avait des petites adhérences au niveau de ma trompe gauche qu'ils ont débouché pendant la célioscopie. Et on m'a fait ce drilling des ovaires. Et après, prochaine étape, c'était une troisième FIV.
Et alors du coup, là, toute cette période, du coup, vous faites des examens supplémentaires, vous faites la célioscopie, etc. Ça prend combien de temps à peu près entre cette deuxième FIV et le moment où vous êtes prêt pour la troisième?
Bah, pas longtemps, parce que on a fait la deuxième FIV en janvier 2018. Et la célioscopie, je l'ai faite en avril 2018, et on fait la troisième FIV en juin.
Ah oui, effectivement, d'accord.
C'est assez rapide. Super. Donc là, mon corps, il accumule quand même énormément de fatigue, d'hormones aussi, et de stress. Donc là, je suis dans un état quand même proche de la dépression, on va dire.
Ah merde, ok. Tu te fais un peu accompagner là-dessus ou...
Non, je me fais pas accompagner, à part un accompagnement sophrologique. Donc j'ai commencé des séances de sophrologie pour apprendre à gérer mon stress, mes émotions, à lâcher prise aussi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Pour moi, ça me suffisait.
Okay. Et ton conjoint ou mari, je sais plus.
Lui, ça allait. Ouais. Après, c'est ce qu'il disait, c'est pas moi qui le vis à chaque fois, c'est moi qui m'injecte toutes ces hormones.
Ouais.
Et lui, en fait, il a l'aspect psychologique. Oui, c'est dur, mais il a pas cet aspect physique que j'ai moi. Donc, c'est plus facile à gérer pour lui.
D'accord. Bon, bah, tant mieux, tant mieux.
Et il est beaucoup moins prévoyant, impatient que moi, donc...
Il n'y a pas besoin de prévoir.
Voilà.
D'accord.
Entre-temps, avant de faire cette troisième FIV, on fait plein de voyages. En fait, nous, c'est vraiment notre moyen de, à chaque fois d'extérioriser, de, ouais, de, d'oublier un petit peu. Donc, on fait plein de voyages.
Mm-hmm.
Et pour cette troisième FIV, on reste dans ce centre PMA. Par contre, on change de gynécologue. Ils sont trois gynécologues dans ce centre et on, voilà, on a besoin de changer... juste histoire de voir autre chose et de pas revoir la même tête tout le temps, en fait.
D'accord, donc vous demandez à changer directement.
Voilà, c'est ça. On est allé voir une des autres gynécologues et qui accepte de nous suivre en nous disant bien que ça apporterait sûrement rien médicalement parlant, parce que c'est les mêmes méthodes, mais qu'elle comprenait qu'on en avait besoin psychologiquement. Fait cette troisième FIV, ce qui change par rapport aux autres, c'est qu'on part sur un protocole long. Donc, avec une ménopause artificielle avant de commencer la stimulation.
Okay.
Donc là, la ménopause artificielle, c'est juste terrible. J'ai des insomnies. Enfin, je supporte vraiment très très mal physiquement.
Ouais. D'accord. Donc, quoi du coup pour déclencher ça?
C'est du décapeptyl.
Okay.
Donc c'est une injection en intramusculaire.
Ouais.
Donc en plus, la piqûre, elle fait bien mal par rapport aux
moyens fun.
Ce qui est marrant, c'est que pour commencer cette FIV, juste avant, on était en voyage dans les Canaries et je voyais que j'avais de plus en plus de symptômes prémenstruels qui arrivaient pendant notre voyage. Et le problème, c'est que si mes règles arrivaient pendant notre voyage, ben, on devait décaler la FIV parce que cette injection de décapeptyl se faisait le premier jour des règles.
D'accord. Donc, stress donc, à la fin.
Et ce qui est marrant, c'est que mes règles sont arrivées vraiment 20 minutes après qu'on ait posé les valises à la maison.
C'est dingue, comme quoi la nature, ton corps te connaît.
Donc là, j'ai remercié mon corps, je lui ai vraiment dit merci. Donc, on fait cette FIV, un protocole long, et là, la FIV, je crois qu'elle donne 5 ovocytes ponctionnés et un seul mature. Donc là, on se dit, mais en fait, c'est de pire en pire. On a de moins en moins d'ovocytes, de moins en moins d'ovocytes matures. Au final, cet unique ovocyte nous a donné un bel embryon, a priori, qui m'a été transmis au troisième jour. Donc là, on était très confiants. Je ne sais pas pourquoi encore, mais on était très confiants et négatifs.
Merde.
Donc là, ça devient vraiment dur parce que on a fait 3 fives. Bon, ok, il y en a que 2 qui ont compté, mais moi, dans ma tête, j'en ai quand même fait 3. Hein. Et normalement, c'est 4 maximum qui sont remboursés. Là, on prend la décision de changer de centre PMA.
D'accord, carrément.
Okay. Ouais, on n'est plus en confiance, même si au final, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait de plus, mais on veut... en gros, on veut aller voir les meilleurs, on va dire.
Ouais, ouais.
Parce qu'on comprend que notre problème, il n'est pas facile... comme on nous le disait au départ. De toute façon, il n'y a pas d'infertilité facile, hein, mais au début, on nous disait que ça irait vite, et en fin de compte, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'ils imaginaient. Donc, on veut aller voilà, chez des spécialistes des problèmes d'ovocytes immatures, en fait.
Comment est-ce que tu cherches ça, d'ailleurs, un spécialiste des
ovocytes immatures? Comment je cherche ça? Grâce à mon super compte Instagram, parce que j'ai ouvert, j'étais que en essai bébé simple, on va dire, mais au fur et à mesure, il a évolué vers un compte Instagram PMA, du coup. Et donc, on a eu énormément en PMA sur ce compte. Et j'ai fait part de ma problématique et de ce que je recherchais. Et donc, j'ai deux filles qui m'ont conseillé leur gynécologue. Et elles avaient exactement les mêmes problèmes que moi, donc beaucoup d'ovocytes immatures. Et elles sont allées consulter à Paris, du coup, chez un professeur qui est vraiment spécialisé sur la question de l'ovocyte en tant que tel.
Enfin, force de la communauté là-dessus, c'est super qu'on t'envoie.
Ouais, ben, sans ça, je pense que j'aurais jamais eu ce contact, en fait. Ouais. J'aurais jamais su que ce gynécologue-là était spécialisé dans dans la problématique de l'ovocyte, ça, c'est écrit nulle part sur sur les sites. Ils mettent pas leur leur spécialité comme ça. Ils sont globalement spécialisés en infertilité. Point, quoi.
Ouais, bien sûr.
Donc, à partir du moment où j'ai ce nom-là, je les contacte directement et on prend rendez-vous et on peut avoir rendez-vous 3 semaines plus tard. Donc là, on est en juillet 2018. Ça fait un an qu'on a commencé la PMA, en fait, qu'on a commencé les examens, tout ça. Donc, en fait, quand on y pense, c'est rapide dans le sens où en un an, on a fait 3 FIV, quoi.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Vous n'avez pas traîné.
Ouais, on n'a pas traîné, mais enfin, ça, c'est à cause du fait que j'ai pas beaucoup d'ovocytes et donc presque pas d'embryons à chaque fois. Parce que quand tu fais une FIV et que t'as 5 embryons, bah, tu fais 5 transferts, déjà, ça t'écoule presque une année, quoi, on va dire. Donc là, nous, ça va vite. Donc, on consulte ce professeur qui nous propose 2 choses. Donc, la première, ça va être de faire une FIV avec un protocole qui s'appelle le double déclenchement. En gros, on nous injecte 2 hormones au moment, juste avant la ponction. Au moment de déclencher l'ovulation, on nous injecte 2 hormones, alors que d'habitude, c'est une seule. Donc, d'habitude, j'avais juste Ovitrel.
Ouais.
Là, il me propose d'injecter Ovitrel et Décapeptil.
D'accord.
C'est assez scientifique, je saurais pas l'expliquer, mais en gros, ça a pour objectif de terminer correctement la maturation des ovocytes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, moi, mes échographies de contrôle, donc où on contrôle l'évolution des follicules, voir comment ils grossissent avant la ponction, ça se passait très très bien. C'est-à-dire que j'avais toujours beaucoup d'ovocytes qui grossissaient toujours de façon harmonieuse. Enfin, à chaque fois, on était très optimiste, quoi, au moment des échographies. Donc ça, je lui en ai parlé et il m'a dit, donc il semblerait que vous, votre problème, ça soit vraiment au moment de ce déclenchement-là de l'ovulation, que la maturation ne se termine pas, en fait. Donc le double déclenchement pourrait résoudre ça.
Okay.
Donc ça, c'est en gros, on fera une FIV avec ça. Et si ça ne donne rien, dans ce cas-là, on fera une autre FIV avec une maturation in vitro des ovocytes. Donc c'est-à-dire prélever les ovocytes sans stimulation et ils les font mûrir en labo, en fait, in vitro. Donc, et il m'explique que ça, c'est vraiment au début de la recherche. Ça fait pas longtemps que ça existe.
Ouais.
Qu'il n'y a pas encore des grands pourcentages de réussite, mais qu'il le propose, on va dire, en dernier recours sur des profils comme moi avec un grand nombre de follicules. Et à la fin de ce rendez-vous, il nous dit... Par contre, voilà, il faut avoir conscience que 3 FIV qui donnent pas beaucoup d'embryons à chaque fois, on n'est quand même pas à fond optimiste, quoi. Dans votre tête, ça serait bien de faire un processus de, enfin, où vous commencez à penser au don d'ovocytes. Voilà.
D'accord.
Il est assez très cash, hein.
Oui.
Mais en fait, on était très contents parce que nous, c'est ce qu'on recherchait, quelqu'un qui soit cash, honnête. Et qu'on arrête de nous bercer d'illusions que tout va bien et juste qu'on continue de faire des FIV, quoi.
Okay.
Donc on nous dit voilà, pensez au don quand même, gardez-le dans un coin de votre tête que au moins si vous avez fini toutes vos FIV, que ça soit pas brutal, on va dire.
Ouais, bien sûr. Ok. Bon bah super. Du coup, donc vous trouvez quelqu'un qui a une idée de ce qui peut se passer et qui a un plan, quoi, en fait.
On a un réel plan d'action, on va dire, en 3 étapes. et du coup, ça nous va bien et ça nous motive à fond.
Ok, super.
À côté de ça, étant donné que moi, je suis quand même un peu encore dans un état dépressif, moi, j'ai arrêté de travailler. À ce moment-là, je suis en arrêt, pour dépression, en fait, au travail. Ça m'a permis de faire un point sur ma vie et je me suis rendu compte que ça m'allait plus du tout là où je travaillais.
D'accord.
Qu'on n'était pas forcément heureux là où on habitait. Même si on était entouré de nos familles, on n'aimait pas l'environnement dans lequel on habitait. Mm-hmm. Donc, on décide de tout plaquer. Je démissionne, mon mari aussi. On prend le chien, le chat et on déménage.
Dans le même coin ou?
Ouais, on reste en Auvergne, mais on déménage dans la plus grande ville d'Auvergne, on va dire, à Clermont-Ferrand.
D'accord.
Qui a 1h30 de chez nous, donc c'est pas loin. Mais en fait, on est sur un environnement plus dynamique, qui nous ressemble plus, en fait. Et à partir de là, même si on est toujours en PMA, on n'a toujours pas d'enfant, rien n'a changé en fin de compte, mais on est beaucoup plus heureux d'un coup. Donc là, on est en septembre 2008. Ouais.
Besoin de renouveau et vous avez le renouveau que vous vouliez. Bon, bah super.
C'est ça. En parallèle, on commence aussi les démarches d'adoption.
Ah ouais.
En fait, on essaye de maximiser au maximum les perspectives pour avoir pouvoir avoir. Et de toute façon, depuis le début qu'on était ensemble, on s'était dit que l'adoption, si on devait être amené à y penser, on aimerait adopter un enfant. En fait, c'était vraiment. Ouais. Je sais pas pourquoi on en parlait dès le début, alors qu'on ne projetait pas du tout d'avoir un enfant, mais on en avait parlé dès le début. Donc on commence les démarches d'adoption. Voilà. Donc en fait, tout ça fait que la PMA, on y pense quand même beaucoup moins.
Oui.
Parce qu'on a ce déménagement, ce changement de vie, cette perspective de l'adoption aussi qui nous motive. Donc on continue la PMA, mais on y pense moins. Okay. On est moins la tête dans le guidon, on va dire.
Ouais, bien sûr. Et toi, du coup, le côté psychologique et tout, ça te fait du bien, ce renouveau? Comment tu vis tout ça?
Ah ouais. Oui, là, à partir de là, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Déjà, je suis plus salariée, je suis à mon compte. Donc, j'ai un rythme qui me convient mieux. Et puis, ouais, je suis beaucoup plus épanouie. Et là, ouais, bon, on va dire que je vais bien. Même si je n'ai pas d'enfant, je vais bien. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'entre-temps, j'ai eu une demande en mariage. Qui m'a quand même bien aidée.
Ouais.
À partir de là, je savais qu'on serait quand même une famille, qu'importe l'issue de la PMA, en fait.
Ouais.
Même si on l'était déjà, hein. Je ne dis pas qu'on n'était pas une famille parce qu'on n'était pas mariés. Mais le fait d'acter les choses, de faire un mariage, de rassembler nos proches autour de nous, ça m'a vraiment aidée. Donc, on était aussi à ce moment-là dans les préparatifs du mariage. Donc, on avait quand même plein de choses en tête en plus de la PMA.
Bah oui, tu m'étonnes que tu n'avais pas que la PMA en tête là.
C'est ça.
Du coup, vous vous lancez sur cette nouvelle FIV.
Donc, on commence cette... cette FIV, ouais. Au début, le professeur voulait qu'on fasse la FIV en décembre, mais ça faisait tomber les ponctions ou le transfert, je sais plus, en plein milieu des fêtes de Noël. J'ai dit non.
Surtout qu'en plus, on est à Paris à chaque fois.
Ouais, oui, parce que là, du coup, on était à 4 heures de route.
Ouais.
J'ai dit non, et puis. Pour moi, cette FIV n'allait pas marcher, hein, comme j'étais habituée aux échecs. Pour moi, cette FIV, on la faisait parce que c'était dans le plan, voilà, ouais. Que nous avait le professeur. Mais pour moi, ça n'allait pas marcher. On allait faire la deuxième étape, puis la deuxième étape n'allait pas marcher. On allait partir en Donovo-Site, je sais pas. J'étais pas déprimée, mais j'étais déterminée. On allait aller en Donovo-Site.
Parce que pourtant, sur toutes les autres tentatives, tu avais été hyper, hyper positive.
Exactement. Et là, non. Donc, j'avais dit non, je veux pas faire cette FIV en décembre, je veux pas avoir un échec pendant les fêtes. Donc, on a repoussé en janvier 2019. Donc, on a repoussé d'un mois, hein, ça va. On fait cette FIV. Pareil, les échographies se passent super bien. Je fais mon suivi chez moi, donc dans l'hôpital de ma ville. Merci. Donc, j'ai pas besoin de retourner à Paris tous les deux jours. Donc, ça c'est top.
Ouais.
Donc on retourne à Paris pour le jour de la ponction. Et là, le jour de la ponction, ça se passe un petit peu différemment parce qu'on vient m'annoncer le nombre d'ovocytes, mais par contre ils les ont pas encore passés au labo, donc ils me disent pas le nombre de matures. Ils me disent juste le nombre d'ovocytes. Donc ils m'annoncent qu'on a 9 ovocytes. Donc c'est tout. Dans le sens où on me dit pas les matures et là on me dit il y a 9 ovocytes. Donc là moi je ressors, je suis très positive parce que j'ai le chiffre 9 en tête. J'ai pas le nombre de ovocytes matures. Voilà et ça change tout dans ma tête et on repart de là super positif. On retourne chez nous hein, à Clermont-Ferrand parce que on nous conseille d'attendre à Paris, d'attendre le transfert. Mais nous, on dit, on n'aura peut-être pas de transfert, donc on préfère pas attendre à Paris, on va rentrer chez nous. Comme ça, au moins, s'il n'y a pas de transfert, on sera chez nous, quoi. Donc, on rentre chez nous, et le lendemain, le labo appelle mon mari, m'appelle pas moi, alors que d'habitude c'est toujours moi qu'ils appellent. Donc ils appellent mon mari et donc Mathieu me raconte après, oui ben c'est bon, il y a deux embryons qui sont beaux et qui sont en train de se développer.
Waouh.
Et donc ouais, il était trop content et tout, mais je dis oui, mais les autres, bah il me dit bah comment ça les autres, bah combien il y avait d'ovocytes matures, parce qu'on le sait pas. Il me dit oui, bah je sais pas, mais on s'en fiche, il y a deux embryons. Oui, en effet, vu comme ça. En fin de compte, c'était pas plus mal qu'ils appellent mon mari, parce que moi je sais que j'aurais posé des questions, j'aurais dit il y a combien d'ovocytes matures, etc. Et en fait, ça m'aurait pas mis dans un bon état d'esprit, je pense.
Alors que lui,
parce qu'après coup,
la nouvelle, quoi.
Bah ouais, c'est ça. Alors qu'après coup, on a su qu'il y avait que deux ovocytes de matures, donc c'était pas beaucoup. Il y a pas beaucoup d'ovocytes matures, mais il y a quand même deux beaux embryons. Et le lendemain, on nous appelle, on nous dit ben vous pouvez venir à Paris. On fera le transfert le surlendemain, donc à J3. C'est tout. Ils nous disent pas plus d'infos. Donc le lendemain, on arrive. On ne sait pas combien d'embryons il y a. Et donc on nous prend dans une petite salle et on nous explique que on a deux embryons qui sont toujours là, qui se développent. Qu'il y en a un qui est vraiment parfait et un autre qui est un peu moins parfait. Mais là, on nous propose de transférer les deux. Donc ça serait un premier double transfert, parce que on n'a jamais eu deux embryons de toute manière. On nous propose de mettre les deux. On nous explique les risques de grossesse gémellaire. Donc ça nous fait un petit peu rigoler, parce que bon, on n'a eu aucun positif depuis, donc je pense on n'imagine pas que les deux puissent prendre, quoi.
J'imagine pas les risques, en fait.
Ouais, c'est ça. Et on nous explique qu'en fait, le fait de transférer les deux peut faire en sorte que, même s'il y en a un qui sera peut-être pas amené à rester, au moins, il pourra stimuler l'autre à s'accrocher, en fait. Il dégage des sortes d'hormones. Et ils peuvent se stimuler l'un et l'autre, apparemment. Donc, on fait le transfert et nous, on reprend la route directement vers chez nous. Et là, on est hyper positif. Enfin, vraiment, on se dit... c'est la première fois qu'on a un transfert de deux embryons.
Ouais.
C'est fou. Non, mais c'est sûr, là, on avance, très positif. Et une semaine plus tard, on est en week-end chez nos parents. Et tous les soirs de ce week-end-là, je suis prise d'espèces de petites hypoglycémies, enfin, comme des mini-malaises. J'ai la tête qui tourne, faut m'allonger, me lever les jambes. Les trois soirs. Donc je me dis, c'est bizarre, il y a quelque chose, ça m'est jamais arrivé ça. Alors à partir de là, j'ai l'intuition que je suis enceinte. Vraiment, je suis sûre. Je me dis, ça a marché, c'est sûr. Et donc le lundi, donc on est à 12 jours après la ponction, je décide de faire un test de grossesse. Donc deux jours avant la prise de sang officielle. Parce que d'habitude, j'en fais pas, mais là, je sais pas pourquoi, j'étais sûre de moi. Et donc je vais à la pharmacie à l'ouverture, j'achète le test de grossesse, je fais le test et là il y avait rien sur le test, pas de barre. Et on était 20 secondes après l'avoir fait. Hein.
Ah oui.
Donc je me laisse dans un coin, je vais me laver les dents, je me dis ouais, comme d'habitude, de toute façon c'est bon quoi. C'est tout le temps pareil. Je commence même à regarder dans quel centre en Europe je vais aller pour faire un don d'ovocytes.
Ah oui.
Non mais moi ça part loin, à chaque fois que j'ai un négatif, il faut que derrière j'ai un nouveau plan quoi.
Ouais, moi je comprends.
Et je prends le test pour le jeter, là je vois qu'il y a une autre barre.
Wow.
Très très légère.
Ouais.
Très légère, mais je vois quelque chose. Donc là, je suis dans un état de stress parce que je ne sais pas si c'est vraiment positif.
Ouais.
Et donc là, je décide d'aller faire une prise de sang sans ordonnance. Je suis tellement perturbée que je me perds en voiture pour aller au labo, alors que je fais tout le temps, hein, pour toutes les prises de sang de PMA. je fais la prise de sang. Après, je voulais aller au centre commercial pour acheter un truc, sauf que bah il était 9h, ça ouvrait à 10h, donc je me suis retrouvée dans un centre commercial vide. J'ai perdu mon ticket de parking, donc je ne pouvais plus sortir du parking souterrain.
Ah ouais.
Je me suis mise à pleurer en appelant Mathieu, en lui disant « Tu te rends compte, je vais attendre les résultats enfermés dans un parking. »
Oh ma pauvre. Voilà, la journée qui commence quoi.
Ouais, j'étais perturbée quoi.
Bah ouais, tu m'étonnes.
On reçoit les résultats de la prise de sang l'après-midi et il y avait un taux positif à 24. Génial. Donc premier positif de ma vie. Donc ouais. Là j'étais contente mais très sur la réserve parce ouais. que je savais que c'était un taux très bas quand même.
Mais en même temps t'étais très tôt.
Et en même temps j'étais très tôt. Ouais. Donc là je commençais un travail de comparatif des autres femmes qui ont eu des positifs ouais. pour voir si mon taux était dans les clous ou pas.
Ouais.
Il était dans les clous, bon, au minimum, on va dire.
D'accord.
Donc, 2 jours plus tard, c'était la prise de sang officielle de la PMA. Mmh. Et toujours taux positif, mais à 52, je crois. Mmh. Ce qui fait que... Non, c'est 51. Enfin, bref. En fait, le taux n'avait pas tout à fait doublé. Enfin...
Presque, mais pas.
Il manquait un chouï, quoi. Donc, j'étais pas non plus sereine à ouais. fond. J'appelle la PMA, ils me disent oui, c'est positif, c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu bas. Hein. Donc, il faut refaire une autre prise de sang pour voir l'évolution. Donc là, franchement, c'est des jours affreux. Hein. J'étais très stressée. Et du coup, 2 jours après, je refais une prise de sang. Et là, le taux avait bien doublé. On avait dépassé 100. La PMA m'appelle en me félicitant, en me disant bravo, vous êtes enceinte, ça a marché, bravo. Bah là là j'y crois et là pour moi c'est bon, c'est gagné.
Ouais. Bah c'est génial, félicitations.
Ouais. Et voilà, donc là après c'est bizarre mais à partir de cette prise de sang là, j'ai jamais eu de stress du premier trimestre. Enfin pour moi. J'étais confiante quoi. Je pensais, pourtant je m'étais imaginée enceinte après la PMA, je m'étais imaginée enceinte stressée quoi. Ouais. Je m'étais imaginée angoissée de le perdre. Ouais. Et à partir du moment où on m'a dit vous êtes enceinte, bravo, félicitations, j'ai plus bon. Eu une seule minute de stress quoi.
C'est génial. Attends, c'est super. Et alors du coup à partir de ce taux-là, il savait qu'il y en avait qu'un ou comment?
Non, il savait pas.
Donc, toi, tu savais pas, tu étais encore un peu dans l'attente là-dessus ou de manière tu étais sereine?
Non. Non, on se doutait qu'il y en avait qu'un parce que comme ouais. les taux étaient bas,
ouais, d'accord.
On s'est jamais posé la question en fait du ouais. deuxième.
D'accord.
Après ouais, le petit stress qu'on a eu, c'était le jour de cette première échographie donc à 7 semaines. D'accord. Là, j'étais un peu stressée. Je m'étais dit, ça se trouve, je sais pas, c'est une grossesse extra-utérine. Enfin, là, à ce moment-là, je m'étais imaginé tout et n'importe quoi.
Ouais.
Et après l'échographie, on était ouais, rassurés et contents. Ouais. Très heureux.
Voilà. Alors, la grossesse se passe bien?
Ouais, franchement, enfin, on pouvait pas rêver mieux. J'ai pas été malade. J'ai eu rien de particulier, en fait. Voilà, juste à la fin, fatiguée, très 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 lourde, mais vraiment une grossesse très sereine et idéale.
Bon, c'est génial. Idéale. C'est génial quand ça se passe comme ça. Super. Ouais. Et donc, petite Ulysse fait son arrivée dans la famille quelques mois plus tard.
Le 11 octobre 2019, après un accouchement merveilleux qui a duré quand même 27 heures. Bon, pas 27 heures de contraction, hein, c'est que j'ai perdu les ouais. os, donc on a dû attendre que le travail se mette en route.
Ouais.
Mais franchement, c'était un accouchement rêvé, voilà. Après, on a eu 2 premiers mois assez complexes, dans le sens où, après la PMA, moi, je m'étais un petit peu idéalisée la maternité.
Mmh.
Pour moi, le combat, c'était la PMA.
Ouais.
Et après, plus rien pouvait m'atteindre, quoi. C'était easy. Ouais. Les doigts dans le nez.
Ouais.
Et non, quoi. C'est dur de devenir maman.
Ouais.
Papa aussi. Et Ulysse a beaucoup pleuré les 2 premiers mois. Et du coup, ouais, c'était assez dur de faire ce lien avec mon bébé.
Ouais.
Malgré le fait qu'on l'ait attendu si longtemps.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Et c'est un très, très bon point que tu soulèves. On a tendance à se dire que le plus dur est derrière nous une fois qu'on a accouché, mais
exactement. Ouais. Il y a après la vie de maman qui aussi il y a aussi ses problématiques, ouais. voilà. Mais par contre du bonheur quoi, vraiment du bonheur. Et à ces 2 mois en fait, on a consulté une micro-kiné pour Ulysse et elle a décelé en fait des blocages émotionnels qui ont eu lieu in utero, donc pendant la grossesse.
Mm-hmm.
Elle a débloqué ça et du jour au lendemain, on a eu un bébé pratiquement serein, enfin sans pleurs.
Dingue.
Et c'est à partir de là que on a vraiment, enfin que moi, en tout cas, j'ai fait le lien avec lui et ouais. que vraiment, je me suis considérée comme une vraie maman, quoi. Ouais. Alors qu'avant, j'étais mère, mais il n'y avait pas ce truc encore.
Ouais,
quoi.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est clair. C'est on le dit. La parole se libère aussi un petit peu sur ce sujet-là, mais c'est assez récent. C'est que non, c'est pas toujours le coup de foudre dès que tu rencontres ton bébé. Ça veut pas dire que tu l'aimes pas. Il y a pas cette surtout en PMA où on a tendance à. Enfin, j'imagine que toi aussi, quoi, tu t'es imaginé maman tellement de fois avant de le devenir que du coup, je pense que t'as tellement d'attentes sur comment ce moment va se passer, sur ce que tu vas ressentir, sur ce que tu vas donner à cet enfant et tout que bah forcément, ça se passe pas, ça se passe jamais. Enfin, rien se passe jamais comme on s'imaginait, quoi. Donc,
oui.
Non, c'est important. C'est ça. T'as raison.
Okay. Mais après, c'est assez dur à l'accepter, ouais. Parce que surtout quand t'es après un parcours PMA, quoi, on se dit, mais non, mais t'as pas le droit de te plaindre, en fait.
Si.
Sois juste heureuse, rends-toi compte de la chance que t'as.
Ouais.
Et du coup, ouais, c'est dur de se l'admettre.
Ouais.
Que c'est pas facile.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est bien que tu l'aies fait.
Ouais.
Et du coup, tu t'avais fait un peu de sophro pendant ta grossesse. Est-ce que ton parcours de PMA, est-ce que t'en as fait aussi à ce moment-là, ou est-ce que t'as essayé de suivre d'autres techniques pour toi t'aider un petit peu à lâcher prise d'une nouvelle manière une fois que t'es devenue maman?
Alors la sophrologie, non, j'ai pas continué, c'est vrai. Par contre, enceinte, j'avais fait du yoga prénatal, j'avais adoré.
Ouais.
Et donc j'ai continué après l'accouchement. J'ai pu reprendre directement après, et ça m'a beaucoup aidée parce que même dans le yoga, on fait beaucoup de méditation, etc. Ouais. Et au moins j'avais mon petit moment à moi dans la semaine où j'étais seule rien de mieux que le yoga pour ça, quoi.
C'est clair. C'est clair.
Voilà.
Non, c'est super. Et alors, t'as dit à un moment, quand tu me racontais ton parcours, que donc Mathieu, lui, est né d'une FIV et que du coup, la parole avait été libérée, que t'as vu le soutien de la famille, du moins à ce moment-là. Alors, du coup, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, ou est-ce que tu préfères garder ça pour toi?
Ici, bah, c'est juste que après, au fur et à mesure des échecs, notre parcours PMA est devenu de plus en plus délicat à aborder, dans le sens où on n'osait plus nous en parler parce que on annonçait des échecs à chaque fois. Donc, à la fin, on ne sait pas si nos proches avaient perdu espoir pour nous ou si ils étaient vraiment gênés pour nous que ça soit si dur. En tout cas, on sentait vraiment une gêne à force, quoi, d'en parler.
Mais c'est vrai que c'est...
À la fin, on n'en parlait plus. On disait après coup, ah oui, on a refait une FIV, ouais, bah, ça a encore pas marché. On le disait après coup, quoi. Mais on n'en parlait plus, quoi.
Non, c'est vrai qu'on sait pas forcément, pour avoir été aussi du côté des proches comme du côté du couple en PMA... On ne sait plus forcément comment aborder les choses. Moi, j'étais du côté des proches avant de passer en parcours PMA. Donc forcément, c'est vrai que c'est une fois qu'on est passé dedans qu'on se rend compte que quoi, qu'on a été maladroit, qu'on
avait
plus de soutien, que nous, ça nous dérange pas vraiment d'en parler. Mais les gens osent pas. Ils ont peur de nous gêner. Je pense qu'aussi, il y a une part de... On a peur de pas trop savoir quoi dire. On a peur de notre bonheur.
Faut dire que je suis assez nerveuse. Ouais. Il y a quelque chose si on me dit quelque chose qui va pas me plaire, moi je peux très vite démarrer au quart de tour. Et du coup, je pense qu'ils avaient peur aussi de dire des choses qui va pas me plaire, quoi.
Ouais.
Je ne sais même pas ce que j'aurais aimé entendre à ce moment-là.
Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai.
Donc voilà.
Maëva, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais envie de te donner à toi en 2016 quand tu as commencé les essais bébés?
Ouais, de ne rien prévoir, de ne rien projeter dans le futur, en fait. Juste de un petit peu laisser couler et de pas faire des plans sur la comète, quoi.
Ouais.
C'est vraiment dès le début, moi je suis trop allée tête baissée là, comme si ça allait marcher tout de suite, et du coup la chute a été un peu rude au début des échecs.
Et alors, d'ailleurs, sur ton accompagnement en psy dont tu parlais, est-ce que c'est toi qui t'es rendu compte que ça allait pas, ou est-ce que Mathieu aussi t'a peut-être un peu encouragé à aller voir quelqu'un ? Comment ça s'est passé ?
Non, j'ai pas eu de suivi, moi, psy. Hein. J'ai fait de la sophro, mais je me suis
T'as pas été en arrêt par rapport à la dépression ?
Ah ouais, si, j'étais en arrêt, mais en fait, c'était avec mon médecin, quoi. C'était pas spécialement... J'ai vu le médecin et le... Ouais, enfin voilà.
D'accord.
Pas spécialement suivi psy, non.
D'accord.
J'étais assez consciente de mon état moi-même, en fait.
Ouais. Non, mais t'es bien. Il y a beaucoup... Dans beaucoup de cas, le plus dur, c'est de se l'avouer, en fait, qu'il y a... Donc, c'est top que tu aies pu t'en rendre compte. Est-ce que tu aurais un conseil sur comment est-ce qu'on peut prendre soin de son couple en PMA ? C'est souvent un des gros défis aussi. On est tiraillé un peu dans tous les sens pendant un parcours PMA. Ouais. On a des joies, on a des moments de grande inquiétude. Parfois, on est en synchronisation. Parfois, il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas. Enfin, c'est pas facile. Est-ce que tu aurais des conseils de par votre expérience à toi et Mathieu,
oui.
Bonne ou mauvaise?
Oui, alors, moi, il y avait un conseil que j'avais lu avant de commencer, enfin, juste au début de la PMA et que, du coup, on a appliqué. C'est à chaque échec ou déception, projeter un truc positif. Donc, c'est-à-dire que nous, à chaque fois, on réservait un voyage, on réservait un week-end, on réservait un resto, à chaque échec, en fait, ou déception. Ça permettait de compenser, hein, en quelque sorte.
Et de projeter du coup sur quelque chose de positif, quoi.
Et de se projeter sur quelque chose de positif.
Ah, c'est super.
Et pour nous, la plupart du temps, c'était des voyages ou des week-ends. Après, c'est pas facile d'en faire.
pas avoir le budget.
Voilà, c'est ça. Mais n'importe quoi, hein. Même une sortie dans la nature, aller faire une rando. Ouais, vraiment s'aérer et voir ailleurs, en fait. Partir de la maison.
ouais, c'est ça. Couper du quotidien et. Mais écoute, c'est un super conseil. Donc du coup, Ulysse aujourd'hui, il a 4 mois et demi, c'est ça ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toi et ta famille pour le futur ?
Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter ? Ben de continuer à être heureux, de continuer à s'aimer, à beaucoup voyager tous les trois aussi. À continuer.
ouais. Il voyage déjà, Ulysse ?
Ben là, on va en Écosse, ouais, dans un mois.
Super.
Donc ça sera son premier vrai voyage.
Génial. Bon, on va raconter comment ça se passe.
ouais. Bon. Ça va être un peu l'aventure, je crois.
Mais écoute, j'ai pris mon petit. Moi, il avait 3 mois pour son premier voyage avec avion. Et en fait, on se rend compte que il y a que nous qui partons à l'aventure. Eux, ils s'en foutent complètement à cet âge-là.
Oui, bah oui, c'est clair.
Du moment que je suis avec papa et maman, tout va bien. C'est ça. Bon, eh ben écoute, c'est super. Merci infiniment, Maëva, d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Félicitations.
Heureuse que
ça finisse et que ça commence bien, du coup. Et puis, bah, bonnes vacances. On aura plaisir à suivre la suite de tes aventures. Je mettrai ton compte Instagram auquel tu fais référence dans les notes du podcast. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très bientôt.
À bientôt, merci.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.